Bienvenue officiellement au premier épisode du Upika Podcast. Pour commencer le podcast, j'ai décidé de rester dans quelque chose que je connaissais bien, donc la natation, en recevant mon grand ami Xavier Desharnais. Xavier qui est un nageur d'extra-endurance. Je dis ça parce qu'il faisait des marathons de natation en eau libre, donc du 10 km au 64 km. Xavier a fait plusieurs équipes nationales, il a gagné deux fois la traversée internationale du lac Saint-Jean, ce qui est un exploit absolument incroyable, plusieurs podiums à l'international, vraiment un athlète émérite, puis il a surtout une excellente connaissance de la natation en eau libre, il maîtrise ça comme le revers de sa main, puis on en a parlé, c'est de ça qu'on a parlé, parce que je sais que dans les auditeurs potentiels du Pika Podcast, il y a beaucoup de triathlètes, il y a beaucoup de nageurs qui nagent en piscine. Puis après ça, ils arrivent en eau libre puis ils se rendent compte que c'est pas du tout la même game. Fait que je suis allé voir avec Xavier, on est tombé geek assez rapidement. Je suis allé voir avec lui c'était quoi les trucs qu'il y avait pour améliorer notre natation en eau libre. Puis la conversation a transcendé la natation parce qu'on a parlé aussi plus globalement des épreuves d'ultra-endurance. On a parlé de comment réserver son énergie, de comment arriver à la fin de la course puis être encore capable d'en donner, même tout donner durant sa course évidemment, mais être capable de bien finir les épreuves. Xavier nous a donné plein de conseils. On a parlé de véganisme aussi parce que Xavier est un athlète vegan. Il a gagné la traversée du lac Saint-Jean en étant un athlète vegan. C'est un porte-étendard, un fier porte-étendard de l'alimentation végétale. Vous le savez, moi aussi, je suis vegan, fait qu'on connecte sur ça. Puis, on en a parlé un petit peu à la fin. Incroyable, vous pouvez le suivre sur les plateformes de réseaux sociaux, Xavier Desharnais. Vous pouvez suivre son compte de bouffe, Gourmand, où est-ce que vous allez avoir des recettes véganes pour les athlètes. Vous pouvez aussi acheter son livre, Recettes véganes pour gens actifs, si je ne me trompe pas du nom, ça va être tout dans la description du podcast de toute façon. Le podcast est évidemment présenté par Upika, puis notre premier produit en fait, le Upika Endurance, qui est un tout-en-un pour les sports d'endurance. 25 grammes de glucides pour l'énergie, 300 mg de sodium pour la rétention d'eau et l'hydratation, des électrolytes pour remplir ceux que vous perdez à l'effort, tout ça en plus de taurine et de vitamines B et C pour maximiser la production d'énergie et réduire le stress oxydatif sur vos muscles. Vraiment, honnêtement, j'ai essayé plein de produits comme ça. C'est de loin le meilleur. Puis je dis ça, évidemment, c'est ma compagnie. Mais je le pense aussi, on a le Upika Endurance Punch aux fruits, on a le Upika Endurance Citron Lime et on a notre nouveau produit, le Upika Endurance Plus Melon d'eau explosif. Pourquoi plus? Parce qu'il y a 100 mg de caféine par portion. Celui-là, c'est mon préféré maintenant, honnêtement. C'est du jamais vu, je vous le dis, vous allez capoter. On a un code promo pour vous, pour les auditeurs du Upika Podcast, c'est le Upika Pod 10, donc Upika POD 10 pour 10% de rabais sur toutes vos commandes au upika.ca. Sans plus attendre, je vous laisse à la conversation que j'ai eue avec mon bon ami Xavier Desharnais. Bienvenue au premier épisode du Upika Podcast. Je vous souhaite cordialement la bienvenue, vous auditeurs. Je te souhaite la bienvenue, Xavier, premier invité du Upika Podcast. Cobaye aussi. Ouais. Puis je me sens à l'aise que tu sois mon cobaye parce qu'on a une bonne relation. T'es mon ami proche. Puis je préfère fuck up avec toi que quand va venir le temps d'inviter quelqu'un d'autre.
Ben écoute, man, merci de m'avoir. Je pense qu'on va avoir du fun. Puis t'as pas dû avoir à faire trop de recherches sur moi.
Non, c'est ça aussi. Bien, c'est ça. J'étais quand même prêt aussi. Puis tu sais, dans le Upika Podcast, je veux aborder tous les sports, mais je me suis dit que c'était la meilleure solution pour moi d'aborder la natation en premier, de parler à un nageur, parce que je pense que je connais quand même ça aussi.
Ouais, c'est ça.
Tu me disais que t'étais sleep deprived aujourd'hui.
Ouais, il me manque un peu de sommeil.
Explique donc au monde qui nous écoute qui savent pas pourquoi.
En fait, la raison est simple, c'est un bébé. Mm-hmm. Un bébé. Ça, il paraît que ça fait en sorte qu'on a moins de sommeil la nuit.
Ouais.
Je croyais pas
c'est
à ça.
C'est ça qu'on dit, ouais.
Je crois à ça maintenant. Ouais. Donc, shout-out à tous les papas, à toutes les mamans. parce que c'est pas facile à avoir le travail en même temps, le bébé la nuit, le bébé le soir, ça change complètement de vie. C'est vraiment le fun, c'est vraiment gratifiant. Ça change à chaque minute un bébé.
Ouais.
C'est vraiment le fun pour ça. Mais c'est plus dur de tout enchaîner les projets autour. Puis ben là, j'arrive aujourd'hui, je suis comme... Tu m'as demandé de venir, je suis là.
Yes, il a fallu qu'on se
mais je vais peut-être chercher mes mots.
Ouais, parfait. Puis il va falloir qu'après ça, tu quittes rapidement pour retourner.
Oui, le bébé attend.
Ouais, c'est ça. all right, man, my check, je vais commencer. J'ai quelques questions que je veux un peu poser à tout le monde qui va venir ici, là, tout dépendant si c'est des athlètes ou des entraîneurs ou des personnes, des nutritionnistes ou whatever. Là. C'est quoi, aujourd'hui, ta relation avec le sport? Tu sais, là, c'est sûr que ça a sûrement changé depuis la naissance de ton fils, mais mettons qu'on prend un peu avant ça, là, tu sais, quelle était ta relation avec le sport post-carrière d'athlète professionnel, entre guillemets, même si c'est pas vraiment du sport professionnel, là, mais ouais.
On aimerait ça que ça soit professionnel, ouais, ouais. Mais on s'est rendu compte en arrêtant que ce n'était pas professionnel. En tout cas, le compte en banque s'en rend compte. Ben, en fait, j'ai toujours eu une bonne relation avec le sport. T'sais, même si j'étais de très, très haut niveau, je voyais toujours après.
Mm-hmm.
Je savais que c'était pas un sport professionnel, donc il me fallait un après-carrière. Puis j'ai aussi eu la chance d'arrêter quand j'ai décidé d'arrêter.
Ouais.
Donc pas d'écœurantite.
Pas de blessure.
Quelques blessures, mais je voulais justement me rééquilibrer. Parce que oui, c'était un sport que j'ai poussé à l'extrême. Donc il a fallu que je néglige, mettons, certains muscles, que justement j'avais certaines blessures que je portais, mais que j'étais tanné d'avoir. Puis quand j'ai arrêté la natation, je me suis dit... c'est l'occasion parfaite pour te mettre à plein d'autres choses. Fait que là, j'ai commencé à faire du squash. J'ai commencé à faire de la course. Mais là, j'avais mal. T'sais, j'ai mal à l'épaule en jouant au squash. J'ai mal au genou en jouant à la course. Puis j'étais comme, ah, c'est poche parce que sinon, je serais pas capable de rien faire. Puis il faut que je bouge. C'est inné en moi. Si je bouge pas une journée, je vais être un peu plus grumpy. Je vais être même un peu plus fatigué que si je bouge. Donc, pour moi, c'était sûr qu'il fallait que je continue à bouger. Donc, j'ai vraiment pris la décision de m'entraîner plus en muscu, de découvrir un peu plus la musculation, rééquilibrer mes jambes, rééquilibrer mes épaules. Parce que, tu sais, en natation, tu le sais, on en fait des mouvements.
Mm-hmm.
Mais en natation, en eau libre, quand on se claque 100 km par semaine,
ouais. Ça
fait beaucoup de mouvements de bras. Donc, tout ça, ça faisait en sorte que tous mes muscles de haut du corps étaient tous portés vers l'avant. Donc, très propice aux blessures.
Ouais.
Et donc, j'ai vraiment recommencé à rééquilibrer. Là, j'avais du plaisir à jouer au squash. J'ai pu commencer à courir un peu plus. Puis pour moi, c'était juste l'essentiel. Je voulais être capable de faire tout, peu importe. Rien d'intense, rien d'extrême, mais juste aller faire un hike à Sutton avec la belle famille, aller prendre une marche, aller courir n'importe où, en montagne, en ville. Tu sais, aujourd'hui, je suis à l'hôtel dans telle ville pour le travail, mais je peux aller faire une course sur le bord de l'eau, tu sais. Puis juste pour me permettre de bouger à chaque jour. Puis c'était vraiment ça mon objectif. Puis je pense que c'est ça que, ben là, avec le bébé un peu moins. Mais mon objectif, c'était d'être capable de bouger n'importe comment à chaque jour.
Ouais, parce que ce que tu dis là, c'est quelque chose que je suis sûr qu'il y a beaucoup de sportifs ou d'athlètes. Je n'ai pas encore assis la terminologie des auditeurs du Pika Podcast, là. Mais de sportifs ou d'athlètes qui vont avoir vécu, ceux qui ont fait du sport de haut niveau. Moi, je me rappelle quand que, tu sais, on s'entraînait, j'ai pas fait autant de kilomètres que toi, on y reviendra tantôt, mais tu sais, je passais beaucoup de temps dans la piscine, puis souvent, t'arrives dans un contexte externe à la natation, puis t'es défoncé. Tu sais, moi, je me rappelle souvent quand il y avait des... Oh! faut pas dire souvent. Souvent, quand, mettons, j'avais des amis qui déménageaient, j'allais les aider à déménager, les genoux décollissés dans les marches, tout le temps fatigué, pas capable de lever les affaires comme du monde, juste parce que la musculature était vraiment spécifique à un sport, tu sais. Mais en même temps, c'est un peu ce que ça prend.
Ben, c'est sûr. C'est sûr que ça prend ça, tu sais. Je te parlais que j'avais négligé mes jambes, là, mais il y avait une raison derrière ça, là, c'est parce que quand tu nages 30 km, de suite, ben tu veux pas avoir des muscles qui te servent à rien dans tes jambes.
Ouais.
Fait que tu vas avoir des petites jambes. Puis tu sais, les nageurs, on est plus représentés comme un gros torseau, des épaules
en V avec
des petites jambes. Plus que tu es un sprinteur, moins ça s'applique pour les jambes. Mais tu sais, moi, mon kick, il y a pas besoin de force, tu sais, de puissance. Il faut juste qu'il soit constant.
Mm-hmm.
Donc, pas besoin d'avoir 5 livres de plus dans chaque jambe parce que c'est 10 livres de muscles à traîner.
Ouais.
Et donc, je faisais le choix de ne pas entraîner mes jambes.
Ouais, exact. On va revenir là-dessus parce que je veux que ce podcast-là, ce soit vraiment une occasion d'aller quand même deep dans l'entraînement puis la science du sport, là, tu sais, mais... puis c'est la mission que je lui donne. Fait cool. Que s'il y a des gens ici qui sont pas nageurs, ça risque de vous intéresser quand même. S'il y a des gens qui s'intéressent à la natation, ça va sûrement définitivement vous intéresser.
Oui.
Quand on nageait ensemble, nous, on s'est connus quand on avait 10, 11 ans, 11, 12 ans,
ouais.
À peu près, où est-ce qu'on a commencé à se croiser dans une compétition provinciale, ouais. Mettons. Puis à ce moment-là, on était sensiblement sur... le même max, mettons, on nageait peut-être du 200, 400, puis on se rejoignait ouais. À peu près là, puis à peu près en vieillissant vers 15, 16 ans, là, on a vraiment pris un Y, parce que là, moi, je suis resté plus 200 descendant, puis toi, t'es allé vraiment dans le 1500.
en montant.
Puis après ça, mais au début, c'était 400, 1500, puis après ça, rapidement, de comme faire un 10 km ici et là, quand t'avais 16, 17, puis de faire, OK, il y a peut-être vraiment mm-hmm. du potentiel vers ça. Quel rôle avait Mohamed Marouf, ton coach à Sherbrooke, dans cette direction-là, dans ce désir d'aller là? Parce que moi, de mon expérience, il n'y avait personne, j'avais pas aucune figure au-dessus de moi qui avait fait le choix de faire de la natation d'eau libre, faire du marathon. Puis toi, à Sherbrooke, Marouf était un ancien marathonien de natation.
Ouais. Ben, c'est sûr que j'ai eu de la chance. Hein. Tu disais tantôt, vers 15 ans, on s'est spécialisé un petit peu. Mais tu sais, je me rappelle qu'on a fait des 10 km ensemble aussi. Là. On a fait de l'eau libre ensemble. Puis moi, j'ai continué là-dedans. Puis toi, tu t'es spécialisé en piscine. Moi, à Sherbrooke, j'avais la chance d'avoir Mohamed Marouf, comme tu as dit, qui, pour mettre les gens en contexte, c'est mon entraîneur égyptien. Il est venu d'Égypte parce qu'il faisait toutes les compétitions dans le monde, puis il a rencontré une Robert Valoise, ils se sont mariés.
Pendant la traversée du lac.
Pendant la traversée du lac Saint-Jean. Ouais. Puis il est resté, il s'est établi à Sherbrooke, il est devenu mon entraîneur. Le plus gros des hasards, là, c'est comme... Ça s'écrit pas, ces choses-là. Ouais, ouais. Puis Marouf, je pense que je lui faisais penser un peu à lui quand il était plus jeune. Il m'a pris sous son aile, il a cru en moi. Il a vu que je me débrouillais bien dans les longues distances, il a vu mon potentiel, il m'a poussé énormément, il m'a montré ce qu'il fallait pour se rendre là. Puis un autre facteur qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi j'avais la traversée du lac Memphrémagog dans ma cour. Toi t'avais le lac Saint-Jean, mais moi j'avais le Memphrémagog, puis on avait plusieurs nageurs du club qui la faisaient, puis donc ça me donnait envie. Puis Marouf, ben, tu sais, il me dit, c'est sûr que tu vas la faire un jour, donc on va se préparer étape par étape, 5 km, 10 km. Puis à chaque fois, j'étais de meilleur en meilleur, tu sais, je me classais de mieux en mieux, je réagissais un peu à la course, à la douleur de mieux en mieux. Et donc, tu sais, pour moi, c'était juste rendu un cheminement évident que de faire les 30 km et plus.
Là. Ouais. Puis quand, mettons, t'étais fin secondaire, son arc 4-5, on parle de combien de kilomètres d'entraînement par semaine à peu près? Parce que moi, je me rappelle, sur l'arc 4-5, je faisais 8 entraînements par semaine.
Ouais.
Fait que j'avais 3 matins à 5 heures, dont le samedi, plus les 5 jours de la semaine.
Ouais.
Puis tu sais, ça tournait autour de 4, plus comme 5000 par pratique. Fait qu'on parle d'un 40 kilos par semaine à peu près.
Ouais.
Toi, quand t'as commencé à aller... à spécifier, si je me rappelle bien, à Sherbrooke, vous n'en faisiez des bornes quand même.
On en faisait énormément. Spécifiquement, en secondaire 4-5, pas de temps plus que toi. Je pense que ça a vraiment commencé au cégep.
Ouais.
Donc, je devais faire à peu près 60 kilos secondaire 4-5, ce qui était quand même beaucoup.
Ce qui est quand même pas mal. C'est
20 km de plus. En 8 entraînements aussi. Ouais. Puis,
c'est quand même pas mal de plus. Là. On parle d'une couple de 5000 mètres dans la gang. Là, les 5000 mètres, c'est 2 heures et plus. Là.
Ben, ça dépend un peu parce que Marouf était aussi du genre à accumuler les longueurs. T'sais, tu peux faire un entraînement de 7000 en 2 heures, mais tu vas avoir beaucoup de repos, des temps de repos, des longs temps de repos, des 100 mètres sur 2 minutes. Mais avec Marouf, les temps de repos étaient très courts. Puis souvent, un 7000 mètres, on pouvait le rentrer en 1h40 facilement. Là.
Ouais.
Mais oui, c'était toujours environ 2 heures. Puis j'y repense, là, puis il y avait aussi un autre facteur, c'est Philippe Dubreuil.
Oui.
Tu sais, Philippe Dubreuil qui était un très grand nageur de longue distance.
Ouais. Qui nageait à Sherbrooke.
Qui nageait à Sherbrooke. Ouais. Donc moi, je faisais 6 entraînements. C'était un peu pour ça que je faisais plus de longueur. Ça a été un mentor aussi, Philippe. Puis tu sais, j'ai vraiment eu tout tout autour de moi, ouais, pour que je me dirige vers l'eau libre et que je performe aussi parce que j'ai un coach incroyable, j'ai un objectif avec la traversée, puis j'ai un mentor et un modèle que je veux attraper à chaque entraînement. Ouais. Fait que ça me pousse à faire un petit peu plus que peut-être.
Puis Philippe Duroy, corrige-moi si je me trompe, mais qui était un animal d'entraînement. Là.
Un animal.
Ouais.
Même encore là, je pense qu'il est encore très solide.
À ce jour, là.
Il s'entraîne encore à Trois-Rivières.
Ouais, ouais. Ah ouais, hein.
Puis je dis peut-être n'importe quoi, là, puis peut-être qu'il va nous écrire pour dire que c'est pas vrai, mais il me semble que j'ai entendu dire un de mes amis à Trois-Rivières qui a fait comme 30 fois 100 sur une 30.
Là. Ah ouais. Hein.
Maintenu une 10.
Facile.
Là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté, puis je pourrais plus faire ça. Wow, puis ça fait 12 ans. Là.
Ouais. Ah, il l'a encore, là.
Il l'a encore. Ah ouais, c'est une machine. C'est une machine.
Fait que t'arrives, c'est ça, fait que t'arrives au cégep, puis là, tu commences à monter le millage. Là.
Ouais, ouais, c'est
parce qu'il y a quand même un esti de step entre 60 kilos, puis arriver éventuellement plus tard dans ta carrière à des 100 kilos par semaine. Là.
Ouais, parce que, tu sais, là, au cégep, on a eu un peu le on s'est dit, on est prêt pour faire la traversée du lac Memphrey-Magog, qui est 34 kilomètres.
Ouais.
Puis,
qui est 2 semaines après la traversée du lac Saint-Jean, habituellement.
Habituellement, non, même pas, c'est la semaine d'après.
Okay.
C'est le samedi suivant. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas comme objectif de faire le lac Saint-Jean.
Tu peux pas faire le doublé. Là.
C'est ça. Fait qu'en 2007, j'avais prévu faire la traversée à 17 ans. Donc là, je faisais du 100 kilos par semaine.
Ouais. 100 kilos par semaine, défait ta semaine pour moi. Là. Donc explique-moi comment tu te rends à 100 kilos par semaine, parce que aussi bien tu veux le twister dans ta tête. Pour ceux qui nous écoutent, là, admettons que tu fais 10 entraînements par semaine, ce qui est déjà un chiffre faramineux. On s'entend que ça veut dire que tu fais 2 doubles parce que le dimanche est toujours off.
Toujours.
Ouais. Ouais. Ça prend au moins une journée complète de repos complet. Ouais. Fait que ça veut dire que peu importe comment tu le spins, il y a 4 jours sur 6 que tu fais un double.
Ouais.
Puis si tu fais ça, mettons que tu fais 10 entraînements, tous les entraînements sont de 10 kilos minimum.
Ouais.
Ça n'a pas de bon sens.
Ben, en fait, le modèle qu'on prenait, c'était à peu près ça. 4 doubles. Donc, il y avait 4 matins, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, matin, samedi matin.
Ouais.
Puis les 5 soirs.
Ouais.
Donc, le mercredi, on avait juste un soir. Le samedi, on avait juste un matin.
Ouais.
Comment ça fonctionnait souvent, c'est que les matins étaient plus longs. Donc, on allait souvent en haut de 10. Fait que, mettons, 12.
Ouais.
Puis les soirs étaient un peu plus courts.
8.
Donc, on allait à peu près à 8.
Ce qui est déjà un entraînement vraiment long pour quelqu'un. Tu sais, moi, des 8000, j'en ai pas fait tant que ça dans ma vie. Là. J'ai assez de doigts sous une main pour les compter. Là.
C'est long, 8, mais en même temps, c'était rendu tellement...
C'est court quand tu fais 12 le matin.
C'est ça. Puis, tu sais, on travaille pas les mêmes choses nécessairement non plus. Tantôt, tu disais, tu sais, en 2 heures, on rentrait un 8 kilos, mais en 2 heures et 10, on rentrait un 12, tu sais.
Ouais.
Puis souvent, le samedi, whoop, là, on augmentait le millage. Puis tu sais, c'est 100 kilos à peu près, mais tu sais, ça variait souvent entre 90 et 100.
Ouais.
Comme tu dis, tu sais, la moyenne était juste en bas de 10 kilos par entraînement.
Ouais. Mais ça représente, tu sais, mettons qu'on prend 2 heures par entraînement minimum, tu sais, de base, c'est toujours bien 20 heures dans la piscine par semaine, 20 heures d'entraînement actif. La natation, ça a cette particularité-là que... La course, par exemple, tu peux pas faire 20 heures d'entraînement de course à pied dans une semaine. Tu vas te défoncer les chevilles.
Les genoux, les chevilles, les articulations.
Même les marathoniens font pas 20 heures d'entraînement de course. Peut-être les ultra-trail puis ultra-marathoniens, peut-être. Même là, pas toutes les semaines.
Ouais.
Mais 20 heures d'entraînement par semaine, c'est une quantité d'énergie insane. Toi, t'es au cégep pendant ce temps-là.
Ouais.
T'as de l'école.
Sérieusement, quand on est au cégep, on est invincible.
Ben, on
parce que j'étais au cégep, je nageais, je travaillais, genre le vendredi soir, samedi soir, je finissais à minuit.
Tu travaillais où?
Dans une cantine à Sherbrooke, ça s'appelle Louis Lunchenette. Je faisais des patates frites. Peut-être là, je prenais mon énergie.
Ouais, ouais, c'est peut-être.
Puis, tu sais, veux pas, tu rentres au cégep, tu sors un petit peu, là. Fait que j'enchaînais tout ça, puis j'étais capable de tout faire. Puis là écoute, je me couche une heure trop tard, puis j'ai de la misère à me réveiller le lendemain. Là,
ouais, ça, c'est l'énergie vitale qu'on a moins, on dirait, là.
Mais non, écoute, tu sais, aussi, quand t'as un objectif, quand t'as des gens qui croient en toi, c'est quand même assez facile de te dire, hey, je vais y arriver, peu importe qu'est-ce qu'on m'envoie, je vais être capable de le faire. Là.
Ouais. Puis t'as juste par curiosité, comment a été ta première traversée du lac Memphrey-Magog cette année-là, mettons? Parce que là, t'arrives avec la prep comme du monde, puis...
Mais comme je t'ai dit, j'étais censé le faire en 2007.
Ouais.
Puis en 2007, je sais pas si tu te rappelles, Non, c'était en 2006. En 2006, on était au Lac-Saint-Jean ensemble. Mm-hmm. Puis Marouf m'avait inscrit au marathon de la relève,
ouais.
qui est un 10 km. Ouais. Tu l'as fait plusieurs fois
ouais.
pour la relève. Puis il avait oublié de m'inscrire. Puis il m'a dit juste pointe-toi au départ, puis tu vas être correct. Puis je me suis pointé au départ et je n'étais pas correct mm-hmm. parce qu'il faut s'inscrire d'avance.
Mm-hmm.
Puis là, je t'avais regardé le faire. Avec Fred, avec ouais, Frédéric ouais, Marois. Puis le lendemain, moi, j'avais fait l'amateur avec vous. T'sais, on avait fait 5 kilos,
ouais,
2 kilos, 1 kilo.
On a des belles photos de tout ça.
Ouais, ouais. Puis en 2007, c'est ça. Donc, je voulais faire la traversée au complet. Mais là, je me suis blessé. Je me suis fait opérer pour un genou.
Ouais.
Puis, fait que tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais prêt. Là.
Ouais.
Puis en 2008, finalement, j'ai fait la traversée, 34 kilos. Puis ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai tenu à peu près 18 kilos avec le pack principal. Ouais. Puis là, après ça, j'ai lâché. Mais tu sais, j'ai pas lâché comme explosé. J'ai juste lâché, puis j'ai pogné un mur.
Ouais.
Puis quand t'es pas habitué de prendre plusieurs murs dans une traversée, ouais. ça peut être assez difficile.
Parce que c'est cyclique, là, dans une épreuve. C'est quoi? C'est 8 heures?
C'est à peu près 8 heures, ouais. Ouais.
C'est cyclique. T'as des hauts, puis t'as des bas, c'est sûr. Sauf ouais. que la première fois que tu le fais, quand tu frappes un bas, tu sais pas que tu vas en ouais. sortir, là.
Tu t'en doutes. Fait que j'ai probablement frappé un mur peut-être à 10 kilos. Tu continues quand même. Tu sais, des fois, il y a des facteurs qui font en sorte que tu peux continuer avec le pack. Il n'est ouais. pas tout le temps à pleine allure.
Ouais.
Puis arrivé à la moitié, quand j'ai vu que j'arrivais pas à suivre, ben, tu sais, à un moment donné, je sais pas que si je sprint en ce moment-là, ben, ça va être bénéfique pour plus tard, mais je mm-hmm. le savais pas à ce moment-là.
Mm-hmm.
Donc, j'ai fini la course. J'ai dépassé quelques personnes qui ont vraiment explosé.
Ouais.
Puis j'ai fini, je pense, 9e. Faudrait vérifier, peut-être 9e chez les gars. Il y a 2 filles qui m'ont battu.
Mm-hmm.
Puis moi, ça m'a juste dit, t'es à la bonne place parce que, tu sais, j'étais le plus jeune, puis j'ai quand même pas fini dernier.
T'sais. Ouais, ouais. Puis, je veux qu'on parle un petit peu de... Pendant cette phase d'entraînement-là, à ce moment-là, tu n'étais pas encore vegan.
Non.
Comment tu nourris dans une journée type à 2 entraînements à 10 kilos par semaine?
Je mangeais n'importe quoi.
N'importe quoi, n'importe quand.
C'était,
tu t'en fous.
C'était, ouais, c'est ça. Tu t'en foutais complètement. Surtout à cet âge-là aussi. Tu sais, déjà, ouais. déjà un adolescent de cet âge-là peut manger pas mal n'importe quoi.
Ouais.
Tu sais, j'ai jamais calculé ce que je mangeais vraiment dans ma carrière. Puis je suis quand même content parce que ça m'a pas...
T'as pas développé des troubles.
J'ai pas développé de troubles. Puis tu sais, j'ai eu des bonnes personnes autour de moi. Puis quand j'ai voulu faire le switch vegan, ça a été super facile. Mon nutritionniste m'a écouté. Mais à ce moment-là, je mangeais n'importe quoi. Tu sais, j'allais à l'épicerie avant l'entraînement. J'achetais les tubes de pâte à biscuits puis je mangeais ça.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est comme... Je pourrais
juste
jamais faire ça. Là.
Calories in.
Calories. Puis n'importe quoi, vraiment. Tu sais, je dis les pâtes à biscuits. Il y a les biscuits du Subway avant l'entraînement. Je me rappelle, mon entraîneur...
Ouais.
Pendant une compé, il m'avait amené au PFK à un moment donné.
Ouais.
Il n'y a rien de pire que de manger du PFK pendant que tu fais un effort, peu importe
ouais,
l'effort,
ouais.
tu vas rater ta vie
ouais.
après. Là.
Ouais.
Puis moi, ça fonctionnait.
Ça passait. Là.
Ouais.
Puis la première fois que tu fais une traversée, c'est sûr que là, t'as Marouf, ton coach,
ouais.
qui peut t'aider pour les stratégies de nutrition, mais j'imagine que ta stratégie a beaucoup évolué, puis on reviendra sur après ça en fin de carrière,
ouais.
ça ressemble à quoi, mais initialement, tu y vas avec quoi? Parce que moi, je me rappelle quand j'avais fait le 10 km, on m'avait dit, ah, fais-toi dégazer du Dr. Pepper. Je vais donner du Dr. Pepper avec des wake-up. Puis peut-être un power gel dans de l'eau, c'est amené.
Ouais.
C'était quoi, toi, ta stratégie quand t'es arrivé dans ça?
Ben, je reviens à Philippe Dubreuil.
Ouais.
Philippe Dubreuil qui était très méthodique, très, tu sais, il faisait rien pour s'il n'y avait pas une raison derrière. Donc, Philippe m'a beaucoup coaché là-dessus. M'a introduit rapidement aux meilleurs produits sur le marché qui était à ce moment-là Cytomax.
Ouais.
Qui
existe encore.
Qui existe encore, puis j'ai pris toute ma carrière.
Toute ta carrière, ouais.
Ça a évolué.
Ubica n'existait pas encore
non,
à ce moment-là.
Sinon, non, mais fait que je prenais du Cytomax, puis avec Marouf, puis mon nutritionniste, quelques années plus tard, on a introduit comme, tu sais, justement de la caféine, de la protéine aussi pendant les courses. Mais à ce moment-là, c'était que du Cytomax avec quelques gels, des Advil. Puis même au début, tu sais...
Des Advil,
ouais.
des bonnes vieilles Advil.
Mais les Advil, c'était...
Puis c'est miraculeux, des Advil.
C'est miraculeux. Puis tu sais, tu as tellement mal aux épaules après 2 heures.
Mm-hmm.
Puis tu sais qu'il t'en reste 6.
Mm.
Tu sais, c'est... La natation, c'est particulier parce que... Tantôt, tu parlais d'heures d'entraînement de course, mais tu sais, tu marches toute la journée. Tu es debout toute la journée.
Ouais.
Tu t'entraînes pour la course, là, mais... La natation, non.
Ouais.
C'est complètement contre nature. Puis quand tu bouges les bras pendant 2 heures non-stop, juste pendant 2 heures, c'est quoi? Environ 10 000 coups de bras. Mm-hmm. Essaye de lever ton bras 10 000 fois. Mm. Puis c'est sûr que tu vas avoir mal juste comme ça. Mm. On pourrait le faire jusqu'à la fin, puis on arrêterait là, parce qu'on n'est pas, con. Là.
Ouais.
mais tout ça pour dire que les Advil sont venus parce que ça soulageait beaucoup. C'est aussi très un effet placebo. OK, j'ai pris mes Advil, ça va aller mieux. Même principe pour la caféine.
Ouais.
Puis je voulais venir à un point, c'est ça, je mangeais. Au début, je mangeais beaucoup de solides.
De solides, oui.
De solides, okay, okay. Tu sais...
Banane,
banane, c'est le classique, mais oui, bartend, sandwich.
Ouais, sandwich aux œufs, là.
Marouf, il me faisait un sandwich. Puis ce que j'aimais beaucoup prendre, c'est les petits brownies. Tu sais, les two bite brownies.
Ouais, ouais,
à la fin, ça me donnait un petit boost. Ouais. Puis ça me, tu sais, un feel good. Ouais. Je me sentais tout. Ouh, oh, c'est le fun.
Quand même du stock prendre ça dans pleine course de natation. Là.
Imagine-toi prendre un sandwich en nageant.
Ouais, non, c'est ça. Il devient tout mouillé, tout
dégueulasse. C'était dégueulasse.
Ouais, puis en plus, c'est comme le temps de le mâcher. Il faut que tu respires, il faut que tu t'as l'eau dans la bouche, c'est dégueu.
Tu
là.
Peux pas arrêter, tu sais.
Non. Une bonne vieille gorgée du lac Memphremagog, c'est pas optimal. Là.
Ah, ça, j'ai une anecdote là-dessus.
Vas-y, vas-y.
Il y a à peu près 2 ou 3 courses que j'ai fini complètement déshydraté ou en hypothermie ou vraiment là, dans sauce. Là. Mm-hmm. Puis tellement là,
la bonne vieille sauce.
Que l'eau du lac, c'était la meilleure eau que t'as jamais vue. Puis, je pense que c'était ma deuxième traversée du lac Memphremagog. Puis c'était la semaine après le lac Saint-Jean en 2009. Ouais. Et j'ai explosé. J'ai fini de peine et de misère, là, je me rappelle à peine. Puis je me rappelle qu'à la fin, je buvais l'eau parce que c'était tellement bon.
Oh man!
Puis j'ai été vraiment malade.
C'est
après.
Sûr, ouais. C'est dégueulasse ça.
De là, l'importe.
T'avais juste pas assez bu dans le fond.
Ben, j'ai probablement pas assez bu.
C'était quoi ton timing? Tu buvais à chaque combien de temps?
Aux 20 minutes.
Ah, c'est pas beaucoup ça, man, quand il fait chaud là.
Aux 20 minutes.
Puis en plus, c'est que t'as pas, tu sais, dans une course d'eau libre, t'as pas une bonne grande gorgée où est-ce que tu prends tous les millilitres possibles.
Non, ça se peut parce que si la course va lentement, mais en fait,
t'as le temps,
t'apprends de le faire.
Ouais.
Parce que les premières courses, t'es stressé, puis comme tu dis, tu veux y aller tout de suite, t'es
stressé,
t'es nerveux.
Pour la première fois, quelqu'un qui court, mettons, un 10 ou un 21, là, puis là, t'arrives dans un ravito, puis là, les ravitos, tu veux pas ralentir, fait que tu pognes ton verre, tu renverses l'eau partout, tu t'en crises dans la face, puis tu continues, tu sais. Finalement, t'arrives à la fin, puis t'as pris 2 petites gorgées d'eau à la fin de ton 21.
C'est vraiment le même principe.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est aussi...
ça, prendre le temps de boire... Ou prendre le temps de faire ta ravito comme du monde, c'est essentiel.
C'est crucial. Puis ça m'a pris là, au moins 2-3 traversées le catcher. Puis même principe pour d'autres choses. Il y a beaucoup de vaseline en eau libre.
Ouais.
Simon Tobin, un ami à nous, pourrait t'en parler.
Ouais.
Mais tu sais, les gens s'en mettent partout. Puis Simon, une de ses stratégies, c'était
d'en mettre
en dessous des pieds parce qu'il y en avait qui le touchaient les pieds sans arrêt.
Puis après ça,
c'est fatigant.
Mais Simon, ce qu'il disait, c'était que. Ça, c'est fou. Simon, ce qu'il m'expliquait, c'est que quand le monde touchait en dessous de ses pieds avec la vaseline, après ça, mettons, il allait toucher leurs lunettes pour rincer leurs lunettes, puis là, ils crissaient de la vaseline dans leurs lunettes. La vaseline dans tes lunettes de natation, ça reste là jusqu'à la fin. Là.
Puis je l'ai appris à la dure.
Ah, ouais, that's it.
Puis j'ai. Tu sais, la première fois que ça m'est arrivé, puis c'est peut-être même Simon qui m'a mis de la vaseline sur ses mains, parce que c'est vraiment pas confortable non plus pour
continuer. Non, c'est ça, ouais.
Puis là, à un moment donné, j'avais de la buée, je lève un petit peu. Puis je frotte, là je ne voyais plus rien, mais au lieu d'arrêter, puis on a des paires de lunettes de rechange. Ouais. Donc au lieu d'arrêter, puis dire, Marouf, lave mes lunettes, donne-moi une paire de rechange, puis juste perdre 5 secondes, puis rattraper. Mais là, tu t'entêtes à essayer d'y aller. Là, tu perds le pack, tu vas croche.
Tu travailles 4 fois plus fort.
Tu travailles vraiment trop fort, puis ça m'est arrivé exactement. Puis après, j'ai appris, j'ai dit, s'il y a de la vaseline dans tes lunettes, prends le temps de l'enlever, demande au coach qui la lave comme il faut. Puis c'est un même principe pour la nutrition, c'est de vraiment prendre le temps de bien le boire, mais c'est aussi au bon moment. Ça, c'est l'expérience qui rentre.
Ouais. Après ça, là, ta carrière a continué. Ouais. Là, t'as fait des équipes nationales, t'as gagné le lac Saint-Jean 2 fois, gagné Memphremagog aussi.
Deuxième
Memphremagog 2 fois.
Ouais.
Puis j'imagine qu'à travers tout ça, t'es devenu vegan.
Ouais.
T'as fait la transition vers le véganisme, c'est ce qui est vraiment pas quelque chose que tous les athlètes se risqueraient à faire. Là. Honnêtement, en plein, parce que c'est pas comme si t'étais un athlète de plaisance. Là. T'étais un athlète compétitif, tu racais pour gagner des courses à l'international. T'as fait un changement drastique dans ton alimentation. Moi, je connais l'histoire, mais ceux qui nous écoutent, pourquoi?
Ben, en fait, je cherchais le moyen de... de performer plus. Tu sais, à ce niveau-là, là, tu sais, puis j'ai fait le changement en 2012, mais à ce niveau-là, on s'entraîne tout autant. Là. Que tu fasses 100 kilos ou 105 kilos, ça revient au même, tu sais.
Ouais.
Puis pour avoir un edge sur mes compétiteurs, je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que tu sais, là, qu'est-ce qu'on dit maintenant, c'est le sommeil, c'est l'alimentation. Tu sais, il y a plein de petits facteurs à travailler avant, justement, de t'acheter le vélo le plus cher ou le maillot qui glisse le plus. Puis moi, j'étais rendu
Ou pour le moins, si t'es rendu à faire ça...
C'est ça.
Tu check les autres affaires aussi.
Puis, exactement. Donc là, j'étais comme, ben, tu sais, je dors quand même bien, je focus que sur ça, tu sais, mes études étaient secondaires, même si j'y allais. Qu'est-ce que je pouvais faire pour vraiment performer plus? Puis là, je suis tombé sur des articles de nutrition, puis des articles sur le végétarisme, sur le végétalisme, puis de couper les aliments d'origine animale, tu sais, qui diminuent l'inflammation. Pas nécessairement toutes pour les bonnes régions, mais ça m'a convaincu d'essayer. Fait que je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos tranquillement, puis je me suis dit, ça fait du sens, puis je vais l'essayer. Puis cette année-là, j'avais les essais olympiques en 2012, puis je me suis dit, après les essais, tu sais, qui est comme une énorme compétition.
Un énorme bloc pour quelqu'un qui fait de la natation.
Mais je me suis dit, tu sais, je suis pas prêt à mettre en jeu les 3 dernières années et demie de ma vie d'entraînement
avec
super
un changement
intense,
aussi drastique
juste au cas où, puis je pense que c'est normal, tu sais, les athlètes on est des créatures de routine, on veut pas trop changer. Donc j'ai changé, j'ai rien changé, mais j'ai été malade comme quelques mois avant à manger. J'ai mangé un burger au Brésil, puis j'étais malade, puis ça m'a écœuré de la viande vraiment. Donc j'ai tout de suite direct là, j'ai dit bon, mais tant qu'à
je vais faire tout de suite,
non, juste la viande rouge.
Ouais, okay.
Juste du poulet. J'ai gardé poulet, poisson. Puis, je suis allé m'entraîner un mois et demi en Belgique avec des amis, avec des compétiteurs puis un bon entraîneur juste avant les essais. Puis, vu que je mangeais juste du poulet, ben eux, ils m'ont fait juste du poulet matin, midi, soir. Puis ça m'a écœuré.
Ça t'a écœuré du poulet.
Puis, le lendemain de la sélection olympique qui était au Portugal, j'ai dit... Plus de viande, je suis écœuré. Puis après, ça m'a pris comme 3-4 mois à essayer de couper le reste des produits animaux. Parce que cet été-là, j'ai eu ma première médaille internationale. J'avais fini deuxième à Memphremagog, justement. Donc j'ai dit, waouh, ça fonctionne. Peut-être que c'était très émotif.
Plein d'affaires.
Ça faisait deux mois que j'étais végé. C'est pas rationnel. Mais en même temps, j'ai fait le switch. Puis par après, j'ai plus jamais regardé en arrière.
Mais la chose certaine que ça a fait, c'est que ça fait pas nuit.
Ben c'est ça.
Tu sais.
Puis c'est tellement un bon point parce que, avec du recul, je me dis, tu sais, même si les deux alimentations sont équivalentes, mais il y a tellement d'avantages autres. Tu sais, il y a des avantages pour la planète, tu sais, l'éthique animale, le sentiment de bien-être que ça m'apporte. Puis je me dis, tu sais, pourquoi retourner en arrière? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Bon, ben, je reste comme ça.
Ouais. Une question que je veux poser aux gens qui vont venir sur le podcast, c'est si t'as un entraînement préféré, un set en particulier. Moi, je sais que j'en avais un. Quand je nageais, c'était con là. C'était pas genre.
J'ai hâte d'entendre ça.
C'était pas, mais c'était même pas genre un set vraiment tough ou tu sais, parce que des sets tough, j'en ai fait, puis tu sais, on en a payé là, tu sais. Mais j'avais un set que si je faisais, puis que en fait, si je le faisais bien. Chantais que j'avais vraiment gagné. Puis c'était un 3 fois 6 fois 50 sur une 10. Puis c'était pace de 200.
En short course?
En short course. Je pouvais le faire au crawl, au dos, au fly. Puis 8 kickfly par mur. 8 kickfly de coulée par mur. Puis si je réussissais à faire ça, comme du monde, avec 2 minutes entre les 6 fois, là. Si je réussissais à faire ça comme du monde, il n'y a aucun set dans ma vie que je chantais qui m'amenait plus que ça. Ça, j'étais comme, OK, non, là, c'est un... Ça, je viens de... Ça, c'est payant, ultime payant. Tu sais. Toi, t'avais-tu ça? T'avais-tu un set que t'aimais ça revenir, refaire, puis refrapper les targets, puis d'avoir l'impression de...
Non.
Non, pas vraiment?
Non, parce que... Toutes mes sets étaient vraiment... Tu sais, les sets que je me rappelle, c'était vraiment des sets décollissants.
Ouais. Mettons, donne-nous un exemple de ça.
Ben, il y a un set que j'ai fait vers la fin de ma carrière à Camo avec Claude Saint-Jean. Puis
Lui, il est quand même connu pour faire des esthétites. Là.
Ouais, ouais. Puis, ouais. C'était...
Ouais, il y a le crayon, il y a la mine lourde.
Il y a des beaux... Tu sais, la particularité avec Claude, c'était tout le temps 8 kilos, ses entraînements. Ouais. Tout le temps. Fait qu'on en faisait 10 à peu près.
Ouais.
Mais il y a un de ses sets, c'était... Le set principal, c'était... Ça change, ça a augmenté à chaque semaine. Ça commençait à 4 fois 400, 4 fois 300, 4 fois 200, 4 fois
100. OK.
Puis à chaque semaine, ça augmentait d'un.
Un set de 4000.
Non, ça faisait 5... La première fois. Puis après ça, c'était 5, 5, 5. Jusqu'à 10, puis après on redescendait jusqu'à
10. Mais 10, 10, 10, c'est 10 000 mètres.
10 kilos.
Ouais.
Et...
ça redescendait pour comme le taper jusqu'à votre course. Là.
Non, c'est ça. Donc, ouais.
La planif, c'était ça à peu près. Là.
Puis, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait tenir un pace, qu'il fallait tout le temps accélérer.
Mettons le 400, je sais pas, une 5, après ça... Une 3, une 1, ouais. Puis...
Puis il était sur un temps vraiment rapide.
OK.
Puis là, on dirait que peut-être que je l'embellis un peu, mais il me semble que c'était sur une 10 de pace. Donc, c'était sur 4,40, 3,30, 2,20, une 10.
Mm.
Donc, 10 fois 400.
Puis tu builds dans ta vitesse. Là.
Tu builds dans ta vitesse.
Ouais.
Fait que tu finis le dernier, la plus grosse semaine avec 10 fois 400 sur 4,40. Mettons, là, on essayait de tenir 4,30. Après ça, mais 10 fois 300 sur 3,30, là, on essayait de tenir 3,15, 3,16. Fait que là, on est passé de comme une 7 à une 6. C'est juste de diminuer d'un petit peu. Parce que c'est ça aussi la particularité à ce niveau-là, c'est qu'on s'habitue à nager à des changements de 0,5 secondes sur des énormes distances.
Ouais.
Puis c'est de gauger ton énergie pour être capable de faire ça.
Ouais.
Puis à la fin, les 10 derniers 100 mètres, ben, il faut encore que tu te gauges. Puis t'es dans le rouge, mais t'es capable de faire la différence entre ton rouge pâle, ton rouge mi-pâle, foncé.
Ouais, parce que la différence entre tenir une 3 puis tenir une est énorme.
Est énorme.
Ouais.
Puis même, tu sais, comme une 3, ça va être facile, une ça va être vraiment difficile.
Et fatidique, là.
Fatidique, ouais, c'est un bon mot, ça.
Puis...
mais ce set-là, il amenait... Tu sais, quand on réussissait puis qu'on finissait vite, là, tu te sentais comme le roi du monde, là.
C'est sûr, mais c'est n'importe qui nous écoute en ce moment qui connaît la natation, c'est un set qu'on peut même pas imaginer maintenant. Tu sais, c'est moi, j'aurais jamais de ma vie, of course, été capable de faire un set de même, tu sais, mais c'est démesuré. Là.
C'était vraiment difficile, puis tu sais, je le faisais avec deux autres, Nicolas Massavard puis Philippe Gertin.
Ouais.
Philippe Gertin, il était vraiment solide dans ça, dans ce genre de set-là, puis il l'a fait souvent, lui. Tu sais, moi, j'ai été un an à Camo, mais lui, il l'a fait, tu sais, des années, puis... T'sais, j'imagine qu'après quelques fois à le faire, tu dois te tanner un peu. Puis hey, dès que ça va mal, c'est que ça va mal. Là.
Ça va mal longtemps
ça
aussi.
Ça va mal longtemps.
T'sais, si t'es à côté, puis tu rentres à peine tes 400, puis je pense à ça. Puis, mais c'est moi, ça, j'ai toujours trouvé ça extrêmement difficile dans le training, la répétition.
Ouais.
T'sais, mettons, je te parle du set du 3x, 6x, 50. Ouais. Moi, évidemment, c'était un set.
Mais toi, tu le faisais tout le temps. Là, tu le faisais souvent.
Je le faisais souvent, mais je le faisais. Je savais pas quand il arrivait. Tu sais.
Ouais.
Il arrivait dans le training, puis là, c'était ça.
C'était pas sais. Chaque mercredi, c'est ça.
Non, c'est ça. Mais quand on a commencé à faire ça dans mon programme, en préparation aux essais olympiques de 2012, là, quand je longeais à l'Université Laval avec tout notre groupe qu'on se préparait pour les essais olympiques, on a commencé à avoir un horaire à chaque semaine qui revenait. Puis la semaine était tout le temps buildée de la même façon, puis les 7 clés revenaient, puis ça, moi, j'étais pas capable.
Okay.
Puis il y avait du monde qui réagissait vraiment bien à la répétition, tu sais, mettons, je me rappelle, je pense à Geneviève Quentin, qui elle réagissait vraiment mieux dans ce contexte-là précis, mais moi, ça me barbait, mon gars, j'étais pas capable, genre, je trouvais ça emmerdant de savoir d'avance, OK, ben là, mercredi, ça va être un 3000 kicks le matin, après ça, je vais revenir, puis ça va être un 12 fois 100, tu sais, ça me faisait chier, ça, mettons.
Ben, je te comprends, parce que moi, j'ai vraiment fait les deux.
Ouais.
Tu sais, j'ai ma rouf, là. T'sais, oui, il y a des sets qui revenaient de temps en temps.
Mais tu savais pas.
Mais
là.
C'était tout le temps différent. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, tu sais, nager de la longue distance, ça peut paraître vraiment plate. Puis, tu as fait des 2000, des 1000, des 3 fois 4000, tu sais, des affaires de même. Oui, c'est extrêmement plate, mais ça changeait tout le temps. Puis, dans le 4000, c'était différent. Puis, il y avait des changements de vitesse, des changements de respiration, des changements de style. Fait que, tu sais, au moins dans le boring, il y avait du fun. Puis, c'était généralement la même chose. Puis ça, moi, j'ai full aimé ça. Puis c'est comme ça que j'ai appris à nager.
Ouais.
Puis quand je suis arrivé plus à l'Université de Montréal avec Pierre Lamy, ben lui, il y a des sets qui revenaient à chaque semaine.
Mm-hmm.
Mais j'ai aussi aimé ça parce que t'es capable de te préparer mentalement aussi pour dire « Ok, aujourd'hui, j'ai ça. »
Non seulement mentalement, mais aussi quand tu sais qu'il y a un gros set qui s'en vient, la veille, tu dors, tu manges bien.
Fait que j'ai vécu les deux. Puis je te dirais que les deux m'ont apporté de quoi de positif, mais je pense que j'aime mieux ne pas savoir ce qui m'attend puis que le set change tout le temps.
Ouais.
C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas comme un set que j'étais comme je l'aime beaucoup, beaucoup lui, parce que tu sais, avec Marouf, on allait entraîner la même chose. Si mettons, on va faire un 4x1000 suivi d'un 20x100, tu sais, meilleure moyenne.
Ouais.
Puis c'était souvent ça, c'était comme un gros set de distance avec un gros set de pace.
Ouais.
7000 en tout, plus le warm-up, le cooldown, on était tout le temps à 10. Puis, mais ça allait tout le temps changer. Le 4x1000, après ça, il devenait un 2x2000, 8x500. Puis le 20x100, des fois c'était des 50, des fois c'était des 100, des fois c'était des 200, meilleur moyen.
Ouais.
Fait que ça changeait beaucoup. Puis, ça me, c'est pour ça que j'ai moins de 7 en tête. J'ai vraiment juste les plus gros parce qu'ils étaient vraiment débiles.
Ouais.
Mais j'ai beaucoup aimé ne pas savoir ce qui m'attendait.
Ouais, je comprends.
Ouais.
En eau libre, c'est quand même vraiment différent. Toi, t'étais un bon nageur de 1500, un bon nageur de piscine. Là,
je me débrouillais.
T'avais un... Appelons ça speed, là, même si c'est... Pour moi, c'est pas du speed, mettons. Là. Pour moi, un 1500, c'est pas de la vitesse, mais pour des nageurs de 32, 35, 25 km, le 1500, c'est un bon indicateur de vitesse. Là, puis, toi, t'étais quand même parmi ceux qui faisaient des ultra, appelons ça des marathons d'eau libre. Appelons ça marathon d'eau libre ou ultra marathon d'eau libre. T'étais quand même un de ceux qui avait le plus de speed là, sur 1500, tu sais.
Ouais, pense que oui.
Dans la gang internationale, traversée du lac Saint-Jean, même première gang, mettons. Peut-être pas championnat du monde 25 kilos, parce que là, il y en a, y en avait qui étaient des Olympiens aux 1500, mettons. Là. Mais c'était quoi la différence majeure entre la piscine puis l'eau libre, parce que je sais qu'il y a sûrement, ça se peut qu'il y ait zéro personne qui écoute ce podcast-là, là. Mais s'il y a du monde qui nous écoute, il doit avoir des triathlètes.
Ouais.
Puis dans les triathlètes qui nous écoutent, je sais que c'est un enjeu où est-ce qu'il y a des triathlètes qui s'entraînent en piscine, qui passent beaucoup de temps en piscine, puis que là, ils arrivent en eau libre, puis ça traduit pas pantoute, ils se font dropper par le pack, ils nagent 20 secondes plus lent que leur pace qu'ils sont capables de tenir dans une piscine, puis ils comprennent pas pourquoi, tu sais. Puis il y a un million de différences, je suis sûr, là, mais si t'en avais à pinpoint là, deux ou trois majeurs que les gens doivent comprendre pour être capable de maximiser leur travail en piscine, parce qu'on s'entend qu'aller nager en eau libre, faut que tu le fasses, t'as pas le choix de le faire des fois, mais c'est pas accessible tout le temps, tu sais.
Surtout au Québec,
là. C'est genre, en ce moment, tu peux pas y aller encore, là, tu sais, à moins que t'aies un très gros dry suit, là, tu sais, rendu là.
Ouais.
Mais ouais, si t'avais juste deux, trois petits tips là, aux gens qui nous écoutent pour faire la transition.
Ben, c'est sûr que faut pas que t'aies besoin de repères. Tu sais, en piscine, t'as des repères tout le temps. T'as la ligne noire, t'as les câbles, tu vois, peu importe où dans la piscine, tu vois les murs, tu vois le sol. Quand tu commences à nager, des fois, t'es capable de bien nager sans le savoir parce que t'avances droit, parce que tu vois la ligne droite, tu fonces dans les câbles un peu, fait que tu vas droit à peu près. En eau libre, par exemple, tu vois rien. Puis souvent, l'eau est vraiment sombre. Fait que non seulement tu vois rien, mais c'est très, très, très sombre. Puis là, tu respires très lumineux. Fait que juste ça va te débousseler. Puis il faut que tu sois capable de... faut que tu sois capable de nager les yeux fermés en piscine pour être capable de nager droit en lac.
Ouais.
Ça, je pense que c'est c'est pas un tip, là. C'est juste une observation.
De quoi travailler dessus.
Puis pour le travailler, le seul secret, c'est de nager.
Ouais.
Plus tu nages, plus tu vois la différence entre rentrer ta main ici puis rentrer ta main ici. Je suis sûr que personne n'a vu la différence. Puis ça, c'est primordial en natation. Puis le seul moyen de l'améliorer, c'est de s'entraîner, puis c'est de nager, puis c'est de faire différents styles de nage. Pape, dos, brasse, crawl. Donc, t'es un triathlète, tu fais juste du crawl, t'as pas besoin des autres styles. Mais si t'es capable d'apprendre les autres, c'est sûr que ça va t'aider pour tout, pour t'améliorer dans la piscine, mais aussi éventuellement en lac.
Ouais, parce que tu sais, mettons, je fais juste penser au papillon, là, au fly. Ouais. Tu sais, le fly, c'est un style symétrique. Si ton style n'est pas symétrique, tu vas nager tout croche. Fait qu'en piscine, tu vas t'en rendre compte vraiment vite. Sauf que si t'es capable de nager au fly puis d'être symétrique puis de travailler ta symétrie, quand tu vas arriver au crawl, tu vas être symétrique. Puis si t'es symétrique, tu vas aller droit. Puis aussi de nager au dos sans vrai repère.
Ouais,
au dos, t'as pas vraiment le repère, fait que t'es capable d'aller créer une genre de symétrie. Là.
Puis tu sais, quand tu nages croche, ben il faut que tu puisses
ramener,
te diriger. Il faut que tu saches où est-ce que tu vas. Là, c'est le tip number two. Ouais. Il faut que tu apprennes à lever la tête.
Ouais.
Puis pas juste de lever la tête, il faut que tu saches pourquoi tu lèves la tête. Ouais. Ça, j'en vois beaucoup de triathlètes.
OK, je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'il faut que quand tu lèves la tête pour regarder devant toi...
Faut que tu regardes.
Faut que t'aies un purpose. Faut pas exact. Juste que tu lèves la tête pour... Parce que tu veux voir géographiquement t'es où. Là,
parce t'sais. Que, tu sais, tu peux lever la tête, puis la redescendre dans l'eau, puis dire « Merde, j'ai rien vu. » Puis là, tu la relèves. « Ah, oh, merde, j'ai rien vu. » Regarde, lève-la 0.5 secondes de plus. Ah, et là, la bouée. Puis tu continues à aller vers la bouée. Puis c'est souvent ça, c'est que les gens vont perdre beaucoup d'énergie juste à se diriger, vont lever la tête, mais sans que ça donne rien. Lève la tête comme du monde, regarde où tu vas, dans cette direction-là.
Ça me fait vraiment penser, ce que tu viens de dire là, à notre conversation qu'on avait juste un petit peu plus tôt sur les ravitaillements.
Ouais.
Parce que il m'apparaît vraiment illogique d'essayer de sauver des microsecondes sur quelque chose qui peut te coûter des secondes complètes. Tu sais, je vais donner un exemple. L'exemple sur la nutrition, où est-ce que tu arrives au ravito, puis à la place de ralentir ton pace de 2 secondes pour vraiment prendre ta gorgée comme du monde pour aller sauver 10 secondes à la fin de ta course, tu garoches ça, puis tu ralentis pas ton pace, tu sais. Puis là, ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à ça.
C'est
le
principe.
Mettons que tu prends 0.5 secondes pour regarder vraiment pour l'axe direct vers la lignée, vers la bouée ou vers les pieds du gars en avant de toi, ou vers, peu importe, un repère visuel, l'usine à Robert Val que tu vois arriver, de prendre ton temps pour la regarder. Juste l'axe que tu vas aller gagner, tu vas aller gagner pas mal plus que le temps que tu as pris à juste garder ta tête un petit peu plus sortie. Souvent, le monde, on dirait qu'il, dans les épreuves d'endurance comme ça, il pense que... Puis moi, je suis le premier à faire ça.
Ah ouais?
Mes premiers marathons, là, je ralentissais pas pantoute d'un ravito, je calissais de l'eau dans la face, quasiment du gars qui me le donne parce que pogne le verre de même, puis fait juste continuer, tu sais. Genre, complètement insane de faire ça parce que c'est contre-productif. Sauf que, il y a pas, tu sais, c'est des épreuves qui durent 8 heures. C'est des marathons, c'est 3 heures. 2 secondes, ce n'est rien, là. Ce n'est absolument rien. Puis évidemment, il y a l'aspect de pack, mais c'est même pas assez considérable. Tu peux accélérer un petit peu pour aller rechercher le pack, tu sais, c'est pas...
Les vitesses sont pas assez différentes, c'est premièrement, ça. Pour qu'il y ait une grosse différence. Fait que j'ai 2 points là-dessus, OK? La première, je veux pas l'oublier parce que, juste pour comme imager tout ça, à un moment donné, je suis allé m'entraîner avec un de mes amis triathlètes. Puis je donnais des trucs pour s'orienter. Puis le parcours mesurait 300 mètres. C'était 3 bouées, un triangle. Puis j'ai dit, pars ton GPS, fais le triangle. Moi, je vais partir mon GPS, je vais faire le triangle.
Ouais.
J'ai fait 304 mètres. Pas super. Il a fait 385 mètres.
Ouais.
85 mètres en natation, là.
C'est énorme.
Puis pour
C'est quasiment le quart de la distance parcourue.
Fait que là, tu te dis, là, pour une épreuve de 300 mètres, tu fais... 33% de plus,
c'est démesuré.
C'est beaucoup de minutes de plus. Ouais. Puis moi, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est de là l'importance à regarder souvent, mais bien regarder pour être sûr que tu es tout le temps dans la bonne direction. Tout le temps. Puis même principe avec la nutrition, de prendre le temps de bien manger. Parce que tu veux, là, le sport d'endurance, en tout cas pour moi, c'est économiser ton énergie. Tu veux arriver à la fin... puis avoir tout donné, mais tu veux avoir de l'énergie à la fin. Puis pour ça, c'est des petites choses. C'est, comme tu dis, bien se nourrir, se pacer, évidemment.
Ouais.
Mais aussi prendre le temps d'aller dans la bonne direction, pas faire trop de mètres de plus. Tu sais, si tu cours dans l'entraîne puis que tu vois 2 chemins, là, tu vas-tu sans y penser aller dans un? Non, tu vas t'arrêter 5 secondes pour dire, y en a un des deux qui va me faire 5 kilomètres de plus.
Ouais.
Tu sais.
Ouais.
Puis j'ai une autre image quand même drôle. Tu sais, quand on nageait, quand on était jeune.
Ouais.
Puis qu'on perdait nos lunettes.
Ouais.
Est-ce que tu les replaçais?
Non. Mais t'étais bien mieux de les replacer.
Ben, c'est ça. Puis plus ta distance était courte, là, c'est sûr que ça servait à rien de replacer des lunettes dans un 50 pap. Mais tu sais, moi, un 1500, ça m'est arrivé souvent de les perdre. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, Chris, prends 2 secondes pour les remettre, puis repars.
T'sais, 2 secondes, ce n'est rien, man.
Une course de 1500, ça va être 15-16 minutes. Oui, tu feras peut-être pas ton best, mais au moins, tu vas avoir du fun.
Parce que rarement... Même au 1500, là, si t'es pour faire ton best, tu le feras pas de 2 secondes. Là.
C'est ça.
Tu sais, genre, tu sais, Mettons que t'es pour perdre 2 secondes à remettre tes lunettes, tu vas peut-être même faire ton best quand même, parce que souvent, quand tu drops au 1500, tu drops de 15 secondes, tu drops de 10 secondes, ouais, c'est ça. Là, c'est une autre affaire, ça, ouais, aussi, parce que quand il t'arrive de quoi en eau libre, pis ça, je voulais qu'on en parle, justement, ouais, fait que c'est cool que tu m'amènes là. L'expérience y est pour vraiment beaucoup en eau libre.
Énormément.
Puis souvent, dans des épreuves comme ça, il peut arriver quelque chose, mettons, qui donne un boost d'adrénaline, puis si tu le suis sans poser de questions, ce boost-là, souvent, tu vas en payer les conséquences plus tard, là, tu sais.
Vraiment.
Si tu te laisses emporter, mettons, quelqu'un fait une attaque dans une épreuve d'eau libre, quelqu'un dans le pack, à un moment fait une attaque, puis là, tu pètes une coche, puis tu décides de le suivre, puis que là, si ça, t'es sur l'adrénaline, tu le sens pas, finalement, tu overpaces de 5 secondes, puis t'es juste busté, là.
Ouais. Ben oui, c'est primordial, puis tu sais, plus que ça, faut que tu saches bien te positionner pour pas que ça l'arrive, tu sais. La natation en eau libre, c'est comme le vélo, tu sais, t'es derrière quelqu'un, tu sauves beaucoup d'énergie, puis s'il y a plusieurs personnes devant toi, tu sauves énormément d'énergie, mais si t'es à 3 mètres derrière eux, c'est fini, là.
Ouais.
Donc, il y a un effet d'aspiration incroyable, puis l'expérience commence comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui part, faut que je le suive à tout prix. Niveau 2, si on peut se permettre, c'est « Ah, il y a quelqu'un qui part. C'est qui?
Ouais. »
Est-ce que c'est quelqu'un qui a la vitesse pour partir?
Ouais.
Non? OK, on va le laisser aller.
Ouais.
« Ah, il y a quelqu'un qui part, il y a la vitesse. Qui y a derrière moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la vitesse pour
le suivre?
Ouais. Puis moi, je vais suivre cette personne-là.
Ouais. »
Donc, tu sais, il y a plusieurs niveaux de... Puis c'est ça, l'expérience.
Ouais, exact.
Puis, tu sais, t'en as été témoin à ma dernière traversée. C'est exactement ça que j'ai fait.
C'est ça que j'allais dire. Pour ceux qui le savent pas, puis il y a probablement pas grand monde qui le savent dans ceux qui m'écoutent en ce moment, mais ta dernière traversée, t'as terminé 2e.
Ouais.
Puis moi, j'étais dans un bateau qui suivait la course tout au long.
Ouais.
Puis ça a été vraiment une game de stratégie parce que... Honnêtement, mettons que tu prenais, parce que tu avais été blessé, tu t'étais fait opérer cet été-là, ça avait été plus difficile l'entraînement. Puis si tu prenais, mettons, juste la forme physique des gens, t'arrivais pas 2e. Là. Ou non. Genre le niveau de shape des gens, puis juste ça, mettons comme.
Vitesse, endurance.
Ça étant genre juste l'ingrédient ultime du truc, tu finissais peut-être top 5.
Peut-être.
Que ce qui s'est passé, c'est que t'es allé compenser ça par toute l'expérience accumulée dans ta carrière, mais dans cette course-là principalement aussi. Ouais. Où est-ce que toute la course, c'était comme... Au début, je me rappelle, il y avait deux gars qui étaient partis vraiment tout seuls en avant. Toi, t'es resté dans un pack avec des vétérans que tu savais qu'ils allaient être capables de ramener.
Ah, c'était pas prévu, ça.
Non, ça c'était une luck, là.
Si je peux enchaîner.
Ouais, vas-y.
Tu sais, à un moment donné, j'ai levé la tête, puis je voyais qu'il y avait plein de bateaux en avant de moi, puis... Je dis à mon entraîneur, pourquoi il y a autant de bateaux? Ça faisait 10 km déjà, ça faisait 2 heures et quelques. Puis il me dit, ah ben, t'es dans un pack de 4-5, puis il y en a 6 en avant de toi.
Ouais.
Mais là, moi,
c'est fini, toi, tu te dis c'est fini.
Ils sont 200 mètres en avant, c'est loin 200 mètres, ça se rattrape pas facilement. Puis justement.
Ça se rattrape, mais pas facilement.
Non, c'est ça. Puis en pleine forme, ça se rattrape. Ouais. Là, comme t'as dit, je me suis fait opérer 3 mois avant. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai fait « Bon, ben regarde, t'as plus rien à perdre. » Puis là, il y en a un qui est parti, puis un qui avait beaucoup plus de vitesse que moi. Mais il était juste assez loin pour que je le voie. Puis là, à un moment, je le voyais plus, mais il y en a un autre qui est parti. Puis là, je le voyais. Puis j'ai sprinté pendant une heure de temps, j'ai réussi à les rattraper, mais à ce moment-là, j'étais claqué.
Vidé, là. Quand t'es revenu, je me rappelle, quand t'es revenu dans le pack avec les premiers,
t'es
juste resté... en arrière, puis t'étais comme s'il y a une autre accélération, je suis fait. Là,
ah non, puis là, c'est de la survie, puis tu sais, ce qui se passait, c'est que, mais en même temps, les gens qui ont sprinté devant moi aussi ont dépensé de l'énergie. Eux, ils étaient partis plus vite, fait qu'il y avait moins d'énergie, mais tu sais, après ça, c'était de la survie, puis c'est de te dire, choisis tes combats. Puis ça a donné que j'ai choisi les bons combats.
C'est ça, exact. Puis c'est quasiment un flip un 25 cents quasiment à chaque fois. Tu sais, là, il y a une accélération, ok, man, t'as tout ce qu'il faut pour la suivre? Non. Ouais. Vas-y pas.
C'est ça.
Puis là,
laisse la personne derrière y aller.
Ouais.
Puis si elle se rend, ben toi, t'es capable de t'accrocher un petit peu à lui.
Ouais.
Puis l'autre, tu sais, l'eau libre aussi, c'est que tu peux pas sprinter pendant 30 km.
Non, c'est ça.
Tu peux pas. Tu peux juste sprinter. Tu sais, c'est des attaques. Attaque après attaque après attaque. Puis des fois, vers la fin, là, quand t'as plus d'énergie, c'est un sprint final, mais tu sais, qui est pas vraiment un sprint, mais c'est juste tout ce qui te reste. Ouais. Donc, quand t'es à 18 km de nager dans le milieu du lac, t'es fini complètement, mais...
Des vagues de 6 pieds, de chaque fois.
Des vagues de 6 pieds, oui, dans le froid.
Ouais.
T'es quand même capable d'accélérer. T'sais, soit en mettant le kick, si t'as pas trop de crampes, soit en accélérant les bras ou en allant vraiment derrière quelqu'un, là, dans le cul de la personne.
Toucher les pieds quasiment.
Puis là, ben, si ça dure 10 secondes, t'es correct. Si ça dure 30 secondes, c'est limite. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça durait tout le temps 30 secondes, puis moi, à 32 secondes, je pétais.
C'était l'élastique, là. C'était vraiment genre limite. Puis là, l'accélération arrêtait, puis là, ça se repognait ensemble. Puis là, c'est comme à chaque... Pendant toute la course, jusqu'à ce que là, un par un, les gars drop du pack, puis qu'à la fin, vous étiez trois dans le dernier 50 mètres.
On était quatre.
Vous étiez quatre dans 500 mètres, puis ça, dans le dernier 50, vous étiez trois.
Ça, c'est là, c'était la stratégie, mais là... Là, c'est l'adrénaline.
Le rendu là, c'est tu y vas à fond.
Ah ouais. Puis même là, tu sais, moi j'avais une stratégie, puis je pensais arriver au bouée, puis accélérer, puis là finalement il y avait juste 10 mètres au lieu de 30. Mais tu sais, comme ça se passe tellement vite.
Ouais, c'est clair. Mais ça, je me rappelle m'être dit après, comme ça, c'est vraiment une course d'expérience, man. Tu peux pas faker ça, là.
Ah, 100%. Puis on en s'en est reparlé souvent en plus, puis j'en reparle souvent avec les autres nageurs, puis même les gens qui étaient là, qui étaient présents au lac Saint-Jean à Roberval. Puis tu sais, ils le savaient, là, tu sais, ils l'ont vu, puis d'habitude, je vais me tenir plus en avant, puis là, j'étais beaucoup plus conservateur. Ouais. Puis c'est une technique comme une autre. Puis,
tout à fait. Mais en fait, c'est que t'as été capable de reconnaître ton niveau de forme.
Ouais.
Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est important là, de voir. Puis j'ai vu, tu sais, c'était les champions du monde de Ironman dernièrement, puis Lionel Sanders est arrivé deuxième.
Okay.
Puis lui, il a abordé la course vraiment comme ça. Il a dit, moi, je sais comment je peux watter au vélo. Fait que si au début, je pars, puis il y a des gars qui partent, qui me forceraient à watter plus que ça, j'irais pas, tu sais. Puis comme de fait, c'est exactement ça qui s'est passé. Il a laissé partir tout le monde. Il est resté à son wattage qu'il était capable de tenir. Puis dans le dernier 100 mètres, il a dépassé le gars qui pourrait arriver deuxième, tu sais. Puis il disait, je commence à connaître comment je suis capable de tirer, tu sais.
Ah, puis c'est tellement... c'est vraiment une science, tu sais. Tu t'entraînes tellement, puis tu passes tellement de temps dans le rouge que justement, tu sais c'est quoi qui fait la différence. Tu sais, je m'y connais pas full en wattage, mais si lui, il est capable de tenir 180 kilos de bike à 300 watts, là, ben il est pas capable de tenir 300 kilos de bike à 301 watts.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, c'est que c'est une petite différence qui est tellement amplifiée parce que tu fais, tu fais un effort super long. Il faut que tu sois capable de t'entraîner comme ça. Il faut que tu sois capable de le vivre, de le ressentir. Puis c'est pour ça qu'on s'entraîne comme un débile, tu sais, qu'on fait des 100 kilos, qu'on fait des sets de 10 kilos. C'est pour se mettre dans cette situation-là puis d'être capable de dire... OK, j'ai tout donné. Ça, c'est mon 19e kilo de la journée. Je donne tout ce que j'ai. Combien je peux faire.
Mm-hmm.
Puis la première fois, OK, j'ai fini en 1-1 mon entraînement de 15 kilos. Là, la fois d'après, j'ai fini en 1-1-2.
Ouais.
Une flat 0.8. Une 3 parce que j'étais explosé. Mm-hmm. 59 parce que j'étais... T'sais. Puis là, tu commences à savoir, OK, voici comment je me sens bien. Voici ce que je peux tenir. Voici la durée que je peux le tenir aussi, tu sais, parce que tout le monde est différent. Tout le monde respire différemment, ont un stroke rate différent, kick différent.
Ouais.
Puis c'est d'apprendre à se connaître. Puis pour n'importe quel sport d'endurance, c'est la clé. Là.
Ouais,
c'est
la clé. Exact. Xav, merci mon gars. C'était vraiment hot. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai adoré ça. Puis je pense que ça va être ça, man, le podcast.
C'est cool.
Je pense que ça va être d'aller deep dans le training, deep dans tous ces aspects-là, man. Puis je pense que des conversations niches comme ça, parce qu'on s'entend, tu sais... parler quand même de natation assez précise.
De 40 fois 100, best average sur une 20.
Assez précise, mais moi, en tout cas, ça résonne beaucoup, puis j'espère que les gens vont aimer ça. Y a-tu plug tes affaires, c'est gourmand?
Ouais, moi, tu sais, j'ai écrit un livre, toi aussi d'ailleurs, deux.
Ouais.
Puis gourmand, c'est un compte Instagram que j'ai parti avec mon co...
Qui va venir sur le podcast éventuellement, ce n'est qu'une question de temps.
Ouais, une nutritionniste du sport, donc on a écrit un livre de recettes véganes.
Mm-hmm.
Pour les gens actifs.
Ouais.
Donc, tu sais, tantôt, tu te demandais, ah, es-tu des gens sportifs, es-tu des gens qui bougent, mais nous, on s'adresse vraiment aux gens actifs parce que n'importe qui veut aller prendre une marche, pour nous, c'est actif. T'sais. Bouger, juste faire un peu d'activité physique, c'est bien. Puis, on voulait montrer que les recettes véganes étaient accessibles puis que tu pouvais avoir plus d'énergie si tu voulais plus d'énergie, plus de protéines si tu voulais plus de protéines. Puis, on a sorti ce livre-là avec KO Édition, donc disponible dans toutes les librairies. Puis c'est parti notre compte Instagram gourmand. Donc gourmand qui est, on met toutes des nouvelles recettes, des types de nutrition sportive, des niaiseries aussi, tu sais, on se prend pas trop au sérieux.
Quelques niaiseries.
Puis, ouais, fait que gourmand gourmand sur Instagram, gourmandgourmand.ca, je pense que... Je pense qu'on on s'en vient quand même le fun.
C'est vraiment cool, pour vrai. Puis votre livre est vraiment hot. Puis ma mère, elle m'a justement recommandé, pas recommandé, mais elle m'a donné des, elle m'a fait les louanges de votre livre dernièrement quand je l'ai vu. Elle m'a fait votre chili avec l'orzo.
Ah, le chili,
c'est
Zacola.
Incroyable ça.
Ah, il est bon. Hein.
Elle m'a fait deux sacs sous vide.
Ouais.
Mais ça, genre. Mettons en contexte d'entraînement ou de compétition, là, la veille d'une compétition, ou genre, c'est incroyable cette recette-là.
Ben, tu sais, on a bâti notre livre vraiment pour des gens actifs, puis on a fait une section carb load, donc surcharge en glycogène. Puis le principe, c'est de manger beaucoup, beaucoup de glucides pour avoir le plus de réserves possible pour ta course.
Ouais.
Donc, on a peut-être 7 ou 8 recettes qui ont vraiment beaucoup de carbs. Dont. Celle du chili. Puis, tu sais, c'est des pois chiches, des haricots, de l'orzo. C'est juste des glucides ou presque. Là. Donc, on en a d'autres comme ça aussi. Puis on voulait justement, tu sais, faire un petit clin d'œil à ma carrière de longue distance. Puis, tu sais, moi, avant une compétition, je mangeais énormément de pâtes ou d'aliments riches en glucides. Mais on a mis ça là-dedans. Puis c'est sûr que, tu sais, pour toi qui fais des marathons, puis des ultra
trails. Moi, dans le fond, avant mon marathon de Chicoutimi, l'année passée, j'ai fait votre recette de mac and cheese avec le pulled pork, champignons pulled pork, puis les chips par-dessus.
Ouais.
C'était incroyable.
Mais tu sais, puis ça, c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, regarde, on parle de pulled pork avec la sauce barbecue, des chips. C'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais de manger ça avant une compétition. Tu sais, tu vas pas manger ça une heure avant, mais c'est de savoir quand est-ce le manger. Puis
dans votre livre, c'est indiqué. C'est indiqué. Y a
on
ces
en parle
là.
Ouais.
Très cool. Merci beaucoup, mon gars.
Merci, man.
Yes, merci à vous d'avoir écouté. Puis on se revoit quand on se revoit. J'ai pas de date pour toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que ciao.